Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Cette semaine, comme sujet technique, on va s'intéresser à une partie de DevOps. On va parler d'intégration continue. Et pour ceci, je reçois Julien Coriolan.
Bonjour Julien. Pascal.
Tu vas bien ?
Bah ça va et toi ?
Tu es donc évangéliste technique Azure dans la même équipe que moi, donc l'équipe des évangélistes
GX. GDX, tout à fait.
Chez Microsoft France. Et puis, donc, on va parler avec toi DevOps et intégration continue.
Ouais, on va parler intégration continue. Effectivement, c'est un process qui vient s'inscrire dans une démarche DevOps. Donc avant de commencer, je te propose juste de revenir rapidement sur ce que c'est qu'une démarche DevOps, puisque ce n'est pas que des outils.
Avant de rentrer dans la technique, oui,
effectivement. Ouais, avant de rentrer dans la technique.
Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est bien de parler un petit peu des deux aspects.
Oui, tout à fait, parce que en fait, la technique, si on n'a pas toutes les phases d'avant, elle ne va pas nous servir à grand-chose, en fait, puisque c'est avant tout un changement culturel DevOps, puisqu'il faut accompagner les gens dans les équipes produits, dans les équipes de développement dans le logiciel, mais aussi dans les équipes de management, pour les amener à travailler ensemble. On parle de DevOps, donc c'est assez facile d'identifier qu'il y a les développeurs et les ops qui doivent travailler ensemble, mais au final, c'est un petit peu toute l'entreprise qui doit se modifier pour faire en sorte que le business, que ce soit les product owners, les responsables de produits, les développeurs, les opérationnels, etc., toutes ces personnes-là travaillent ensemble et accèdent à la même base de connaissances. Donc ça, c'est un premier changement qu'il va falloir mettre en place, qui est un changement vraiment, vraiment purement culturel.
Qui a une bonne raison à la base, ouais. C'est qu'il y a un objectif vraiment profond à la base, c'est d'accélérer les processus de production des applications.
Quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite. Les utilisateurs, ils veulent tout avoir tout de suite. Et donc, l'idée principale de DevOps, en fait, c'est d'être capable de faire des releases de nouvelles fonctionnalités le plus fréquemment possible pour les utilisateurs. Et ça, ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité, puisqu'il faut que l'utilisateur soit content, que l'application soit utilisable. Et donc pour ça, il faut que tout le monde accepte en fait, de travailler ensemble et joue le jeu de rentrer dans cette démarche DevOps. Ensuite, en phase 2, on va mettre en place un certain nombre de processus. Et en fait, quand on creuse un petit peu tout ça, on se rend compte que ce n'est pas forcément des choses nouvelles. C'est-à-dire que depuis des années, dans le développement, on a les méthodes agiles, on fait du Scrum, on fait de l'extreme programming, du lean programming, etc. Donc c'est des choses qui existent, mais en fait on va essayer de les généraliser un petit peu aussi dans toutes les équipes, et c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que l'agilité, qu'on connaissait bien au niveau des équipes de dev avant, on va aussi la retrouver au niveau des équipes IT, puisqu'il va falloir amener cette réactivité en fait pour être capable de fournir des environnements de développement, des environnements de test, de recettes, et en fait accompagner vraiment à la livraison, à l'augmentation de la fréquence des livraisons. Donc ça c'est très important. C'est cette capacité à travailler ensemble et à utiliser les mêmes process et pas avoir des process séparés parce qu'on est dev, parce qu'on est ops ou parce qu'on est au niveau business. Et une fois qu'on a compris tout ça, on va pouvoir parler outillage puisque c'est la dernière étape. Hein. Comment est-ce que je fais pour mettre en place des processus et aider les gens à travailler ? Je les outille et ça passe par du software en général et des outils comme de la gestion de configuration avec des chefs ou des puppets, des outils pour industrialiser vraiment le logiciel, que ce soit du Jenkins, du Visual Studio Team Service. Bref, il y en a plein qui existent, qu'on soit on-premise ou qu'on soit dans le cloud. Et parmi les grandes étapes d'un cycle, quand on va être sur une démarche DevOps, on va avoir évidemment la phase de planning, comment est-ce que je vais gérer mon projet. Mmh. Ensuite, on va avoir évidemment toute une phase de développement et de test, de production d'un livrable qu'on va passer en production. Et on ne va pas s'arrêter là, puisqu'en fait, le but de toutes les démarches agiles, DevOps, ça dépend, on va les appeler comme on veut, on va dire, puisque au final, c'est ce que je disais, c'est des choses qu'on fait depuis un petit moment, c'est de ne pas s'arrêter à la production, et de travailler en cycle, en fait, où on va, ce qu'on appelle des sprints dans les méthodes agiles. En général, c'est très court, 15 jours, 3 semaines, ça dépend des projets. Et l'idée, ça va être de toujours ramener des éléments à planifier, et puis on va recommencer le développement, on va refaire une livraison, et puis on va monitorer tout ça, on va apprendre de ce qu'on a fait, on va éventuellement détecter des bugs ou des améliorations possibles dans l'application parce que ça ne correspond pas forcément à 100% à ce que l'utilisateur attendait. Et puis on va réalimenter comme ça ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire les éléments de travail en fait, qu'on a à apporter sur le projet.
Donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'intégration continue. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça se situe dans ce cycle et en quoi ça consiste en fait ?
Alors dans ce cycle, l'intégration continue, on va la retrouver plutôt au niveau développement et test. En fait, J'aime bien dire que l'intégration continue, ça va être un petit peu la base du travail sur un projet. C'est-à-dire que quand on est sur un projet en équipe, on utilise en général un contrôleur de code source, que ce soit dans Visual Studio Team Service ou des outils qui servent à faire des projets open source comme GitHub par exemple, qui vont nous permettre de centraliser toutes les sources sur le projet. Ça va nous permettre d'une part de les centraliser pour les sauvegarder, mais aussi pour permettre en fait à tous les développeurs de l'équipe, je parle volontairement de développeurs puisqu'historiquement c'est surtout utilisé par les développeurs,
bien sûr, ouais,
de centraliser tout leur code source. Et en fait le principe de l'intégration continue, c'est assez simple, c'est de dire que si on a plusieurs personnes qui modifient différents fichiers de code source dans l'application, voire le même, il y a un moment où il faut qu'on vérifie que tout marche bien. C'est-à-dire que les différents commits ou les différents check-in qui vont être faits par les différents développeurs, les différents acteurs du projet, vont s'intégrer correctement. Et pourquoi intégration continue? Parce qu'on va le faire en fait à chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui est apporté au code source. Donc c'est relativement simple en fait comme idée. Et ensuite, on va pouvoir étoffer ce process d'intégration continue, donc on va l'automatiser déjà pour faire en sorte qu'il soit réalisé à chaque fois, et on va pouvoir rajouter des tests unitaires par exemple pour valider qu'on n'a pas de régression dans l'application parce qu'à un moment donné on est allé modifier tel fichier de code source et que ça a eu un impact sur telle ou telle autre fonction ou fonctionnalité dans l'application.
Donc si je comprends, hein, avec mes termes un petit peu IT ou très ancien développeur, hein, ça fait un bail, dès qu'on va commiter, donc valider une modification dans le code source, ça va faire automatiquement une build.
Une build, ça c'est la base, c'est vraiment mon enveloppe en fait d'exécution que je vais automatiser.
D'accord. Et des tests unitaires.
Donc en fait on va générer un binaire dans le cas d'une application Windows, ou alors générer tout simplement un package applicatif si on est sur une application web en JavaScript par exemple, puisqu'on n'a pas d'étape de compilation en tant que telle. Ça pourrait être une transformation d'un métalangage, passer de TypeScript à JavaScript par exemple. C'est vraiment en fait toutes les tâches qu'on aurait tendance à faire et qu'on fait en fait sur le poste de dev quand on développe au quotidien. Mais là on va le faire de manière centralisée pour récupérer en fait tout le travail des copains et puis vérifier que tout s'intègre bien ensemble.
Okay.
Et donc du coup, pourquoi on parle d'intégration continue quand on est sur une pratique DevOps? C'est parce qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas que les développeurs qui vont utiliser ces contrôles de code source et ces builds d'intégration continue, mais il y a aussi les ops, puisqu'on a vu quelque chose apparaître depuis quelques années, principalement depuis qu'on déploie sur le cloud, sur des plateformes de cloud comme Azure, c'est l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, c'est assez simple, hein, on aura l'occasion d'en reparler, mais en gros l'idée c'est de dire qu'on va utiliser un langage pour faire une description de l'infrastructure cible qu'on veut avoir dans Azure ou dans une autre plateforme. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va stocker ça dans le même repository de contrôle de code source. Hein, on partage la même connaissance, on utilise les mêmes outils quand c'est possible, évidemment, pour faire en sorte d'avoir une version de l'application, version 1.4 de mon application, qui est également associée à l'infrastructure cible dans laquelle elle va être déployée. Ce qui me permet de revenir en arrière à un moment donné parce que je dois trouver un bug sur une version, de redéployer facilement une infrastructure, etc. Et là aussi, on va pouvoir faire de l'intégration continue puisqu'on peut très bien imaginer tester le déploiement d'une infrastructure ou tester par exemple un script PowerShell avec des outils comme Pester par exemple qui vont me permettre de valider que tout se passe bien même s'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ces scripts ou sur des scripts différents ou complémentaires. Donc voilà un petit peu l'idée de l'intégration continue. Et du coup, ce que je te propose, c'est de faire une petite démonstration de tout ça. Donc un cas concret, voilà, où on a nos sources qui sont dans GitHub, puisque je vais parler d'un projet open source qui est développé par des évangélistes de Microsoft, un projet qui s'appelle Vorlon.js, et où on a utilisé Visual Studio Team Service pour réaliser notre intégration continue, en fait, pour automatiser la build. Donc là, on est sur une application Node.js, donc on doit aller récupérer des dépendances pour packager l'application et puis ensuite exécuter des tests unitaires. Et ça va se faire à chaque fois qu'on commit en fait quelque chose de nouveau dans le contrôle de code source.
OK.
Donc on va passer à cette démonstration. Et donc déjà, juste quelques mots sur Visual Studio Team Service, qui est une évolution de notre ancien Team Foundation Server qu'on installait et qu'on installe d'ailleurs toujours dans l'entreprise si on a envie d'utiliser un service dans l'entreprise, qui s'appelait à un moment Visual Studio Online et qui maintenant s'appelle Visual Studio Team Services et qui est en fait une offre en SaaS d'un outil pour industrialiser le développement et gérer le travail sur des développements applicatifs en équipe. Donc on a différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Ça va être la gestion de code source. En l'occurrence, ici, on ne l'utilise pas dans l'exemple que je vais donner puisque le code est sur GitHub. Mmh. Ça peut être la gestion des éléments de travail. Comment est-ce que je vais créer mes sprints, mes différentes user stories, mes différentes tâches, comment je vais remonter les bugs, comment je vais gérer mes plans de test, etc. etc. Et j'ai également une fonctionnalité qui va me permettre de gérer des builds, c'est-à-dire de faire de l'intégration continue, voire même du packaging d'applications. Voilà, je veux faire une nouvelle release, je la package et puis je la déploie. Et donc du coup ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini une build. Donc qu'est-ce que c'est qu'une build? C'est tout simplement un workflow avec différentes étapes qui va me permettre en fait de faire des actions sur mon code source. Donc la première chose que j'ai à faire quand je définis une build, c'est d'aller configurer le repository de code source sur lequel je veux travailler. Mmh. Donc là, en l'occurrence, on a un système qui est assez ouvert puisque je peux importer directement un repository depuis GitHub. Et donc, je suis allé travailler en fait sur le repository officiel de Vorlon.js qui est sur GitHub, sur une branche particulière, ici la branche de développement. Ensuite, ce que je suis venu dire, c'est que j'ai une notion de trigger pour dire à chaque fois qu'il va y avoir une modification qui va être faite sur GitHub au niveau de mon code source, je vais déclencher cette build. Donc c'est vraiment là où on est dans l'intégration continue, puisqu'on va le faire à chaque fois qu'il se passe quelque chose.
D'accord. Mais tu peux également, je vois, déclencher des builds de façon scheduled, c'est-à-dire sur un calendrier, sur un calendrier,
toutes les nuits, par exemple, si j'ai envie de générer des nightly builds, je vais pouvoir le faire toutes les nuits. Je suis même pas obligé, en fait, de faire, au final, de l'intégration en continu. Si c'est une build que j'ai envie de lancer que de temps en temps, parce que c'est la génération de mon package NuGet ou n'importe quoi, et puis c'est vraiment à exécuter à une version donnée pour l'envoyer quelque part et puis livrer, en fait, quelque chose, je peux le faire via une build. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va me permettre de faire toutes les tâches répétitives que j'aurai à faire sur mon projet, que ce soit à chaque fois que je fais un commit, intégration continue, ou à chaque fois que je fais une livraison, où là, ce sera une build plus classique.
OK. Donc ça, c'est le trigger.
Ça, c'est le trigger. Et ensuite, l'étape la plus importante, ça va être les étapes de ma build.
Parce qu'on imagine que ces étapes de build, ça peut être très, très, très varié. Ça peut être des choses…
En fait, ça peut être super varié. Parce
de nature
que,
complètement différente.
Ouais, là, on est sur une application Node.js. Donc, on va avoir tendance à utiliser des outils liés au web. NPM, donc le gestionnaire de package de Node, qui va me permettre de récupérer toutes les dépendances liées à mon projet. Ensuite, on va utiliser un autre outil qui s'appelle Gulp, qui est un outil en fait, qui va me permettre de scripter des tâches que je vais vouloir exécuter à un certain moment. Donc là, en l'occurrence, j'ai des tâches qui me permettent d'exécuter des tests unitaires.
D'accord.
Et j'ai une tâche qui va me permettre de réaliser une archive, c'est-à-dire qui va prendre mon application avec tous ses packages et qui va créer un gros zip de ce truc-là pour le stocker sur mon serveur de build, en fait, pour qu'ensuite, je puisse éventuellement le déployer si j'en ai besoin. Et ensuite, je vais publier le résultat de mes tests unitaires. Donc ça, c'est ce qui va me permettre en fait de les voir apparaître dans mon résultat de build dans Visual Studio Team Service. Parce que tu le disais, on utilise des technos divers et variés. Là, je suis en Node.js, j'aurais pu être en .NET, on aurait pu être en Java, on aurait pu être sur une build d'application pour Android ou pour iOS. Donc du coup, on utilise en soi des outils qui sont spécifiques à chaque techno. Mais ce qui est important quand on va utiliser un outil comme Visual Studio Team Service, c'est qu'il permet d'agréger toutes les informations nécessaire à comprendre ce qui se passe sur mon projet. Donc là, en fait, j'utilise un framework qui s'appelle Mocha.js pour faire des tests unitaires. C'est un framework comme il y en a plein dans le monde du web pour faire du test.
D'accord.
Mais par contre, je vais réintégrer les tests qui sont produits dans un format en fait compréhensible pour Visual Studio Team Service, ce qui me permettra en fait dans le résultat de mes builds, je vais te montrer ici, ce sera beaucoup plus parlant, d'avoir un petit graphique qui m'indique comment se sont passés les tests.
D'accord, donc ça c'est un rapport de build.
Ça c'est un rapport de build qui me dit que tout s'est bien passé, il a été déclenché à telle heure, tel jour, et puis mes tests sont passés.
On a un petit historique au-dessus. Si on avait des builds rouges, on le verrait dans l'historique.
On le verrait également. Sur le côté ici, je peux voir les différentes tâches que je te montrais juste avant.
Première étape,
qui est la récupération des sources sur GitHub ou dans le source control qu'on utilise. Mm-hmm. Le npm install. Mm-hmm. L'exécution des tests unitaires.
Et puis on a le vrai.
La création du zip. La publication des résultats, etc., etc.
Ok.
Donc on va retrouver tout ça directement intégré là-dedans.
Donc là, on peut se poser une question quand même, c'est qu'on n'a pas dit où s'exécutent ces tâches de build.
Alors,
est-ce que
c'est
s'exécute dans des machines qu'on fournit, des machines fournies par l'outil. Est-ce que c'est comment ça se passe?
Alors en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que de base, on va avoir des agents qui sont fournis par Microsoft avec Visual Studio Team Service, qui sont des agents Windows. Avec, on va dire, la majorité des outils de dev communs. Alors, ça fait beaucoup, en fait, puisqu'on supporte du Java, on supporte évidemment .NET. Donc, il y a tous les outils pour faire des builds, MS Build, Visual Studio, etc. Les outils pour le web, NPM, Gulp et autres outils. Mais dans certains cas, il n'y a pas tout qui est installé sur cet agent de base. Donc, du coup, on va pas pouvoir l'utiliser. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ramener son propre agent de build. Et cet agent de build, ça peut être une machine virtuelle Linux ou Windows hébergée dans Azure. Ça pourrait être mon laptop ici. J'installe l'agent dessus, je me connecte à mon Visual Studio Team Service. Et du coup, quand je vais lancer une build, Visual Studio Team Service va demander en fait à l'agent qui est sur ce PC-là d'exécuter le traitement.
C'est l'agent qui se connecte à Team Services, mais
exactement
c'est Team Services qui pilote.
C'est lui qui pilote tout.
Les agents.
En fait, c'est vraiment le...
qui fait une orchestration entre les agents.
Ouais, c'est vrai, c'est l'orchestrateur en fait, puisque c'est lui qui est connecté à GitHub, c'est lui qui connaît ses agents, etc. Donc il détecte qu'il y a un commit qui est fait sur GitHub, il appelle, il déclenche le workflow de build, et puis il récupère un agent qui est disponible pour l'exécuter. Et ça pourrait être aussi un Mac, du coup, puisqu'on supporte aussi des builds Xcode, si j'ai envie de compiler une application à destination d'iOS. Il me faut un Mac pour le faire, donc du coup, je peux installer un agent Visual Studio Team Service sur mon Mac et compiler mon application avec ça. Donc plutôt pratique.
Donc j'imagine que la première tâche, ça doit être récupérer les sources depuis GitHub.
La première tâche, c'est récupérer les sources depuis GitHub, donc il fait un clone et puis il récupère la dernière version des tâches. Mais celle-là, en fait, elle n'est pas présente ici dans l'interface, puisque c'est vraiment la tâche de base. Pour c'est builder les sources, il faut qu'on ait récupéré les sources.
Tu as déclaré la source.
Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, si je vais... j'ai mon projet qui est ouvert dans Visual Studio Code. Donc, c'est une application Node.js. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'application ici. Mais je vais juste venir faire une petite modif pour pouvoir envoyer ce code source sur GitHub. Donc là, j'utilise l'application GitHub Desktop pour faire mon commit. Donc je vais dire que je fais une mise à jour du README et je vais venir ici faire une synchronisation pour envoyer en fait mes modifications sur GitHub. Donc ça va prendre quelques instants. Et donc du coup aussi en parallèle de ça, je vais sur mon repo Vorlon.js, donc sur GitHub. Ce que je peux voir, c'est que là, il y a bien eu un commit qui vient d'être fait sur la branche de dev update README il y a quelques secondes. Et si je retourne dans Visual Studio ici, Team Service, dans mes builds, je peux voir ici que à l'instant, j'ai une build qui a été lancée. Et donc là, je vais pouvoir double-cliquer sur cette build et je vais pouvoir en fait suivre l'évolution de ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, je suis sur un agent fourni par Visual Studio Team Service. C'est pas moi qui l'ai installé. Et donc, je peux voir qu'il est bienvenu récupérer les sources. Il est en train de faire le npm install pour récupérer les dépendances. Et je vais pouvoir suivre comme ça toute l'évolution de ma build.
En direct.
Qui va prendre, alors je sais pas combien elles prennent en moyenne, en gros 2-3 minutes pour s'exécuter.
Oui, tout à l'heure, c'était 2-3 minutes. Ouais.
Et donc du coup, je l'ai montré partiellement, on ne va pas rester devant cet écran ici, on va retourner voir juste les résultats des builds précédentes. Je t'ai parlé là de la publication des résultats de test pour avoir une interface commune, etc. Et il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est les artefacts. Les artefacts, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui est produit par ma build, puisque ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand même l'idée au départ, c'est de produire un package ou un binaire.
C'est un peu le but du jeu, oui.
Voilà, c'est quand même le but du jeu. Et donc là, je vais pouvoir voir ce qui a été généré par mon application, donc dans un répertoire drop. Donc ça, c'est sur mon serveur. Je vais retrouver le fameux package zip dont je te parlais. Donc ça, c'était la tâche gulp qui me zip toute mon application. Et en plus de ça, je retrouve un certain nombre d'autres fichiers qui vont me servir en fait dans une autre étape qui sera le release management qu'on verra
dans une autre vidéo.
Dans une autre vidéo, exactement.
Ok. Qu'est-ce qu'on a comme type de fichiers là dans les artefacts? Je vois qu'on affiche des fichiers JSON.
Alors on a des fichiers JSON qui sont principalement des templates de déploiement ARM pour Azure, pour mes différents environnements de déploiement. J'ai également des fichiers PowerShell qui vont me permettre de temps en temps d'aller faire 2-3 petites manips avec les API Azure. Et j'ai également un Dockerfile, puisqu'on a choisi de publier
Vorlon.js
dans le hub Docker. Donc il fallait qu'on puisse générer une image Docker. Et là encore, c'est un bon exemple de build qui n'est pas en mode intégration continue, puisqu'on ne va pas la créer à chaque fois qu'on update un fichier README, par exemple, dans le repository. Mais par contre, à chaque fois qu'on va livrer une nouvelle version, donc on va dire, OK, là, on arrête la version temps de Vorlon.js, on va déclencher cette build. Là, pour le coup, on va le faire manuellement et ça va automatiser la création de notre image. Ça va l'envoyer automatiquement dans le hub Docker, etc. Et au moins, on est sûr qu'on ne se plante pas, puisque c'est un process automatique qu'on a testé et qu'on a éprouvé.
Exactement.
Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de la build et de l'intégration continue, c'est automatiser tout ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas forcément si ce n'est pas automatisé autour du code source et autour des tests qu'on peut jouer dans cette build en fait.
Donc ce qui est intéressant également, tout à l'heure tu en parlais dans l'introduction du travail en commun, du travail ensemble entre les devs et les ops, les ops vont pouvoir utiliser le même outil pour aller faire les mêmes choses que tu as montrées, donc aller modifier des fichiers d'infrastructure qui vont déclencher le même genre de tâches.
Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le cas sur Vorlon. Nos scripts d'infrastructure, donc, qui sont essentiellement, je te disais, des scripts Azure Resource Manager, des templates de déploiement, on les fait évoluer en fait, au rythme de l'application. Si on a besoin d'ajouter un nouveau service, on va faire évoluer le script. Et pour autant, si un jour, on a un utilisateur qui nous dit « Ah, j'ai un problème avec la version 0.4 de Vorlon et qu'on est à cette époque-là à la version 3.4, on ne sera pas à se dire, ah zut, comment on avait fait ce déploiement-là à l'époque.
Exactement.
On fera un revert sur notre code source pour retourner à la version 0.6 et on aura l'appli, le template, on exécutera une release dont je te parlerai dans une prochaine vidéo et ça nous redéploiera tout un environnement dans le passé, mais dans le futur.
On a bien compris. Merci Julien.
Merci à
toi. Ces explications sur l'intégration continue dans le processus DevOps. On en saura plus la prochaine fois. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet technique, donc concrètement. Vous pouvez éventuellement aller sur la chaîne concrètement avec l'URL simplifiée aka.ms/concrètement. Et je vous dis merci, à bientôt et au revoir.
Au revoir.